à tous et bienvenue dans l'émission de la Commission théologique de la Fédération romande d'Églises évangéliques. Nous vous souhaitons une bonne écoute. La Bible est réaliste. Elle rapporte divers récits de guerre dans l'Ancien Testament, mais plus rien n'est dit à ce sujet dans le Nouveau Testament. Comment le chrétien alors doit-il se positionner face à la guerre ? Y a-t-il des cas qui justifieraient d'y participer et si oui, jusqu'à quel point ? Telles sont les questions que nous allons aborder dans ce podcast de la Commission théologique avec Nirine Jonah, Jean-René Moret, avec Peter Randeweek, Vincent Hirschi et Michel Jean-Renaud et moi-même Anne-Catherine Piguet. Dans son discours au tout début de son ministère, Jésus revisite la loi de l'Ancien Testament. Il dit, notamment dans Matthieu 5, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. » La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, était déjà une grosse limitation de la violence. Si quelqu'un te fait du mal, tu ne peux te venger qu'en faisant exactement le même mal et rien de plus. Alors que on a tous toujours tendance à vouloir se venger en entrant dans un cycle, dans une spirale de la violence, dans un cercle vicieux qui aboutit parfois jusqu'à la mort, tellement on est en rage contre l'autre. Dans ce même discours, Jésus affirme clairement que le croyant est appelé à cultiver des relations de paix avec les autres. Il dit dans Luc 6, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et un peu plus loin, « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. Alors, face à cet amour prôné par Jésus, même envers les ennemis, est-ce que cela doit pousser le chrétien aujourd'hui à devenir objecteur de conscience ? Qu'en pensez-vous ?
Moi, j'aurais commencé par réfléchir justement au cas de la guerre, en soulignant par exemple que dans l'Ancien Testament, il y a le commandement « tu ne tueras pas », mais qui est plus proprement traduit « tu n'assassineras pas », et que le cas où on tue quelqu'un dans le cadre d'une guerre n'est pas considéré comme un meurtre passible de la justice au titre des 10 commandements. Et je pense, je dirais qu'il y a la marche naturelle du monde où la guerre et la légitime défense en particulier peut être une nécessité. Et puis il y a le royaume de Dieu que Jésus annonce où la guerre ne sera plus, dont on peut être témoin en refusant la violence. Mais du coup ça crée une tension ou un choix entre adopter l'attitude de ce qui va maintenir le monde actuel dans son état le moins pire possible, ou celle qui veut témoigner radicalement du monde qui vient, et cette deuxième option conduit à l'objection de conscience. Et j'ai tendance à dire que les deux peuvent être défendables et que ça peut être aussi une question d'appel personnel.
Ouais, je pense que la question c'est aussi, mais quelle est la guerre ? Comment on définit une guerre juste, guerre légitime ? Par rapport au passage biblique cité tout à l'heure, concernant l'attitude de Jésus, l'exemple de Jésus, en tant que chrétien, quel message on peut aussi transmettre par rapport à l'amour pour les ennemis ou être travailler pour la réconciliation et en même temps aussi défendre aussi, hein, qui est aussi une légitimité. Donc, effectivement, il y a une tension là et c'est difficile de cadrer. Et là... Voilà, je crois qu'on a aussi besoin de la direction du Seigneur, de prière aussi, hein, du temps avec Dieu aussi pour discerner qu'est-ce qui est juste.
Je pense que ce verset, c'est aussi une éthique personnelle, mais quand on parle de faire d'objection de conscience, il s'agit d'être soldat dans une armée du gouvernement Et on peut aussi argumenter depuis la Bible que le gouvernement a aussi un devoir de prendre soin de son peuple. Et dans ce cas-là, en tant que soldat dans l'armée, c'est tout à fait, à moi, dans mon optique, tout à fait possible comme chrétien de servir dans cette capacité pour la défense.
Il y a un verset que j'aimerais citer, vu que tu parlais du sermon sur la montagne, et puis c'est un verset que j'aime beaucoup, où Jésus, tout au début de ce sermon, fait toute une liste de bénédictions, et une, celle-là, c'est « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Et quelque part, ce verset, il nous montre que le fait d'amener la paix là où il y a des conflits, c'est une des marques essentielles du caractère de Dieu. Et quelque part, pour moi, la question qu'on a à se poser en tant que chrétien, c'est comment est-ce que je peux apporter la paix là où je suis, qu'il y ait des conflits interpersonnels, ou même si on est appelé à être soldat, comment est-ce que, par notre attitude, on peut avoir une attitude qui favorise la paix et pas la haine. Et en fait, il y a un autre texte aussi que je trouve intéressant. Quand on voit des soldats romains qui viennent s'approcher de Jean-Baptiste, où en fait Jean-Baptiste, il ne va pas remettre en question le fait qu'ils soient soldats. Par contre, il va leur donner une série de choses à faire, de se contenter de leur solde, de pas être violent de manière non nécessaire, etc. Pour dire, ben, vivez votre métier de soldat d'une manière qui correspond à une notion de justice qui est plus élevée que ce qui va être admis par vos supérieurs. Et ce désir de chercher la paix, ça, je pense que c'est absolument non négociable dans la foi chrétienne. Par contre, la manière de laquelle ça se manifeste dans un monde qui est perverti par toutes sortes d'injustices, elle peut varier. Et à mon avis, elle n'exclut pas la possibilité justement de servir dans une armée, dans la police ou comme ça, mais avec un état d'esprit qui est celui d'amener la paix plutôt que de faire une surenchère de haine.
On pourrait aussi argumenter que, avec le texte de Romains 13, la question d'obéir aux autorités, et que ben justement il y a ce dilemme pour le chrétien. D'un côté, il doit obéir aux autorités, et puis s'y opposer, ben c'est quand même, comme il est dit, hein, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc on peut s'appuyer là-dessus pour dire qu'il faut ne pas être objecteur de conscience. Mais d'un autre côté, il y a ce sermon sur la montagne où quand Jésus dit qu'il est bon pour les ingrats et les méchants, c'est pas seulement dans les relations interpersonnelles, c'est d'une manière générale. Donc on peut se dire que c'est aussi entre peuples que Dieu est bon pour les ingrats comme pour les méchants, et que nous aussi, on a à refléter cet amour et cette bonté de Dieu. Donc c'est vrai que c'est un gros dilemme.
Par rapport à la notion de soumission aux autorités, il faut rappeler aussi son pendant qui est dans Acte 5, la notion qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, toute la question de l'objection de conscience, c'est à quel moment est-ce que ce que l'autorité me demande de faire est frontalement opposé à ce que, en conscience, je pense que Dieu me demande, au point que je résiste à l'autorité, malgré que dans le cas général, son autorité est légitime et est reconnue par Dieu. Et le fait qu'il y a des situations où un chrétien doit désobéir à un ordre injuste et contraire au commandement de Dieu, il est pour moi indiscutable. La question compliquée, c'est à quel moment cette clause s'applique, et puis à quel moment est-ce que c'est la soumission qui doit primer.
Ouais, et puis disons que dans le livre des Actes, l'insoumission aux autorités, c'est parce qu'ils empêchaient les apôtres d'annoncer l'évangile. C'était que ça. C'était quand même très limité.
Mais dans le cas aussi où on est face à une autorité, enfin face à des dictateurs, donc comment on peut aussi réagir, qui utilise aussi la force, l'autorité sur place à des fins personnelles, et comment on peut aussi cautionner ça? Et là, c'est difficile.
Mais en plus de ça, les apôtres, ils n'étaient pas dans des régimes politiques très très sympathique, hein, et démocratique, hein, parce que voilà, ils étaient dans l'Empire romain. Et il y a non seulement Paul dans Romains 13 qui en parle, mais il y a aussi l'apôtre Pierre qui dit « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font du bien. » Donc, il montre qu'il y a plusieurs pouvoirs là, et puis que c'est pas parce que l'un serait corrompu qu'il faut désobéir, forcément. Hein, c'est pas évident. Et il ajoute juste après la raison de cette soumission. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Donc, oui, voilà, c'est pas une raison. La méchanceté des autorités n'est pas une raison pour refuser d'obéir. Par contre, oui, il y a un motif de conscience. S'ils nous poussent à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, ben, on doit oser s'opposer. Mais c'est vrai que c'est compliqué.
C'est là où je trouve intéressant le passage que tu as cité tout à l'heure, hein, où il a parlé aussi de réagir en tant qu'homme libre ou femme libre. Mmh. Je crois qu'il y a une liberté qui doit être là en tout temps, à tout moment aussi, et selon notre conscience. On peut aller dans un sens ou dans un autre. Mais là, quelque part, la liberté permet de sortir d'un certain emprisonnement ou d'une tension qui est là, mais toujours en mettant en avant quand même ce qui caractérise le message de Christ. Hein. C'est l'amour, la réconciliation, c'est la paix.
Il faut aussi dire que cette discussion se fait jamais dans l'abstrait, mais toujours dans des situations de violence. On peut penser à la situation des Huguenots en France, où il y avait la persécution, qu'on nous brûle, la famille est noyée à cause de sa foi. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à se poser, est-ce qu'on doit vraiment se soumettre à ce roi qui est injuste? Et c'est là qu'il y a aussi un petit peu dans la tradition réformée que cette théologie est issue, qui dit on peut quand même se permettre de résister des tyrans. Et je dis ça aussi en tant que Hollandais parce que mon pays ne sera pas là si on n'aurait pas fait ça à l'époque.
Et il y a eu aussi la réponse inverse, notamment par Menno Simons, qui disait justement qu'il prenait le pacifisme exacerbé et le refus même de servir, pas exacerbé mais très fort, et le refus de servir une autorité humaine. Mais c'est justement, c'est des questions, je pense que la question personnelle, c'est vraiment une question de conscience personnelle. Et moi, j'aimerais aussi ajouter encore deux remarques. On doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et on doit être dans la justice. Et donc, si je vois quelqu'un qui est maltraité et que j'ai la possibilité de le protéger, est-ce que je suis censé le protéger? Je réponds oui. Mais la question, c'est les moyens, etc.
Mais là, est-ce que la réponse serait influencée par l'autorité ou par le rôle ou la fonction qu'on a en tant que soldat ou je dirais, ou policier ou gendarme ou autre? C'est une autorité au-dessus.
On dit en théorie politique que l'État a le monopole de la violence légitime, donc il n'y a que l'État qui, dans nos régimes, qui peut dire qu'à un moment c'est légitime de faire usage de violence. Et ben, les soldats et les policiers ont mandat de l'État d'exercer une certaine violence dans des circonstances qui le demandent. Cela dit, je pense que dans des cas où on assiste à une agression, ou en tout cas on est victime d'une agression, je pense qu'une certaine mesure, de violence pour protéger une victime, je crois qu'elle est admise en droit. Après, en théologie, c'est une autre question.
En tout cas, en théologie, c'est clair que dans Romains 13, c'est évident que l'institution, enfin l'autorité politique est là pour promouvoir le bien et réprimer le mal. Et oui. Puis les porteurs du glaive, comme c'est dit, c'est vraiment contre le mal. Ouais, ouais. Donc voilà, dans ce monde marqué par la violence, en tant que chrétien, ben ça c'est clair, on doit rechercher le maximum de justice, de paix et d'amour, mais voilà, on peut se dire, il y a des cas extrêmes, est-ce qu'il y aurait peut-être des exceptions? Par exemple, on en a déjà un petit peu parlé, mais si une nation est agressée, est-ce qu'elle n'a pas le droit et même le devoir de se défendre ? Est-ce qu'une réaction guerrière, forcément violente, est-ce qu'elle est toujours fausse ? Et dans ce cas, ben, que doit faire le chrétien ?
Là, c'est important, je pense, de distinguer le fait qu'il n'y a pas de nation dite chrétienne. Il y a des chrétiens dans chaque nation. Et dans ce sens-là, il y aura des chrétiens dans la nation qui agresse et des chrétiens dans la nation qui résiste. Mmh. Alors, je pense que la première tâche des croyants, ça sera de s'humilier pour leur pays, de prier. Ensuite, par rapport à l'État, on en revient à cette discussion, par rapport à l'État qui doit préserver la paix de son pays. Et on revient sur le sujet qu'on vient d'aborder, en fait.
Peut-être une chose qui est difficile avec ces réflexions, c'est que bah, souvent on réfléchit à la guerre juste en pensant à un cas idéal du pauvre pays innocent qui est victime d'une attaque injustifiée et qui va se trouver en situation de légitime défense. Dans le monde réel, il y a très souvent des torts des deux côtés, et puis très souvent, en fait, on commence à justifier la guerre juste sur des critères assez précis, et puis après, dans la vie réelle, on utilise ces critères pour justifier les guerres qu'on a envie de faire, pas les moyens qu'on a envie de faire, et qui conduisent pas juste à résister à un méchant dans une situation concrète, mais une perpétuation du cycle où, du moment qu'on est entré en guerre, après on utilise tous les moyens qui sont nécessaires pour gagner la guerre, qui font du mal et de l'injustice de l'autre côté, qui vont alimenter une rancœur, qui vont faire que le côté d'en face va se trouver justifié à réagir et se considérera aussi victime avec... Un peu de mauvaise foi qui vient un tout seul, mais avec aussi des raisons. Donc, il y a aussi un risque. Il y a aussi un risque quand on accepte trop facilement l'idée d'une guerre juste, que après on pratique, on justifie ce qu'on a envie de faire et puis on va taper sur l'autre.
Et puis que la violence engendre toujours plus de violence. Et puis le truc aussi, c'est que plus le temps passe, plus la désescalade est difficile, parce que des deux côtés, il y a de telles souffrances, des morts, etc., des familles brisées, que la haine est bien implantée. Et puis, ou alors, ben, dans certaines situations, tout d'un coup, il y a vraiment une nation qui prend le dessus, qui amène une certaine paix parce qu'elle écrase le plus faible, mais c'est pas une paix parce que dès que le plus faible va se relever, ben, la guerre va reprendre. Donc, c'est vraiment une fausse paix. Qui risque de flamber à nouveau.
Oui, on peut aussi argumenter que des fois, on ne résiste pas assez. Quand on pense à la situation aux Pays-Bas pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y en a eu 130 000 juifs qui ont été exportés vers l'Est dans les camps d'extermination, et le peuple hollandais a fait peu pour arrêter ça, et maintenant... On a besoin de discuter ça, pourquoi on n'a rien fait, en fait. Donc, c'est des questions très, très difficiles. Ouais.
Et dans ce sens-là, je pense qu'on peut vraiment prier aujourd'hui pour que Dieu envoie des négociateurs de paix afin d'aider ces nations en guerre à désescalader la désescalade, pour trouver un chemin pour sortir du bourbier, en garantissant le maximum des solutions viables, une solution viable pour les deux peuples ou les X peuples en conflit, pour que ça donne une paix qui soit durable.
Ouais. Et prier aussi pour ceux qui nous gouvernent, pour qu'ils aient la sagesse justement de bien gérer les pays et bien gouverner.
Je dis parfois qu'il faut qu'on prie pour une paix juste, parce qu'une paix où il n'y a pas de justice, elle n'est pas durable, et c'est plus une oppression qu'une véritable paix.
Ouais. J'aimerais aussi relever le fait qu'en tant que chrétien, on a aussi une espérance, malgré les réalités du péché, des violences, des guerres dans le monde. On va aussi dans une direction où aussi Jésus va aussi établir son royaume de paix, de justice et d'amour. Et on va dans cette direction-là. En tout cas, en tant que croyant, en tant que chrétien, ben, on a cette espérance. Donc finalement, toute violence aura sa fin, quoi.
Oui, et puis l'Apocalypse dit très bien que justement les pouvoirs mauvais sont sur le point de s'éteindre, que Christ a vaincu l'ennemi. Et il est aussi dit que Christ est notre paix dans Éphésiens 2, qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et donc, oui, on est appelé à prier pour la paix et œuvrer pour la réconciliation là où le Seigneur nous a placés.
J'aimerais souligner encore quand même le fait que la violence est toujours quelque part un moyen de dernier recours auquel on devrait toujours être réticent. Et je pense qu'il y a quand même un danger énorme, alors dans une guerre en particulier, mais dans toute situation qui devient un peu chaude, à tout à coup un peu se laisser aller et quelque part apprécier le fait de pouvoir gagner et écraser l'autre. Et personne n'est à l'abri de ça. Et je pense que c'est quelque chose auquel on doit vraiment veiller en tant que chrétien, de pas se mettre à l'accepter trop facilement, effectivement, comme tu disais quelque part, de résister suffisamment. Et en fait, tu parlais des guerres de l'Ancien Testament, mais il y a aussi dans les prophètes plein de textes où Dieu va dire, par exemple, je vais juger mon peuple, mais après, je vais aussi juger ceux qui l'ont détruit parce que dans le jugement, ils sont allés beaucoup trop loin et ils sont allés bien, bien au-delà de ce que j'avais demandé à cause de leur cruauté, etc. Et ça, c'est un risque qui est tout à fait réel et je pense qu'on doit faire attention. On a toujours l'impression d'être dans le juste, tous. Mais la Bible est assez claire pour nous dire, en fait, réfléchis à deux fois et sois pas convaincu trop vite de tes propres convictions d'être dans la justice.
Oui. Un exemple historique, après les guerres de religion entre les huguenots et les catholiques en France, un des huguenots disait « Nous avons fait la première comme des anges, la deuxième comme des hommes et la troisième comme des démons ».
Et c'est vrai qu'une question qu'on peut se poser aussi dans n'importe quel conflit, c'est de se dire, mais comment faire en sorte que ce soit du win-win et non pas, parce que finalement, dans les conflits violents, souvent, il y a deux perdants, il n'y a pas vraiment de gagnants. Ou alors, il y en a un qui écrase l'autre, mais est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné? Parce qu'un jour, on devra rendre compte devant Dieu. Donc, je trouve qu'en tant que chrétien, de se dire, ben, quelle est la solution de Dieu? Parce que la solution de Dieu fait que chacun est gagnant. Parce que Dieu est bon pour tous, quoi. Donc voilà, en tout cas merci pour vos réflexions. On a vu qu'on appartient à un royaume qui n'est pas de ce monde et qui surpasse tous les royaumes. On a cette espérance, on sait que Jésus est le Seigneur, qu'il règne et que Dieu nous fortifie et vous fortifie, vous auditeurs aussi, dans son amour, dans sa justice et dans sa paix, et qu'il nous fasse la grâce d'être ambassadeurs de sa réconciliation. Nous espérons que vous avez apprécié cette émission. À bientôt !